des jeunes qui vont dans un monde parallèle dans
Thunder 3.
Un jeune qui vit avec un père qui, lui, est dans un monde parallèle dans
Le Roi Méduse.
Et des jeunes qui sont, oui, un peu dans un monde parallèle où il y a Batman.
Wayne's Family Adventure.
Bienvenue dans l'épisode 110 du Gaufrier, votre podcast BD.
Oui, oui.
Nous sommes le 17 mars 2024 et il y a un peu plus d'une semaine, nous quittait l'un des piliers du manga et de la pop culture japonaise, Akira Toriyama. Je pense qu'ici, on a tous été bercés par Dragon Ball dans notre jeunesse. Merci le Club Dorothée. Mais Akira Toriyama, c'est aussi Dr. Slump avec l'inénarrable Harale. Et pour moi, c'est aussi le fabuleux jeu Chrono Trigger, dont l'OST m'accompagne plus que jamais ces derniers jours. Il aura inspiré plus d'une dessinatrice, rien qu'à voir les hommages que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelques mots sur Akira Toriyama, mais moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter pour compléter mon introduction. Mimoun.
Bah, un peu comme tu le dis, ça nous a bercé. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin et que quand le bibliobus passait, il me restait...
Oh, le bibliobus, mais oui.
Il me restait plus beaucoup de temps avant la fin des épisodes. Donc, je préparais mes chaussettes et mes chaussures à la fin de l'épisode. Parce qu'après, il me restait genre 5 minutes pour emprunter mes livres. Je me rappelle de ma découverte des mangas Dragon Ball. Je crois que j'avais acheté le 30 et le 31 pour commencer. Donc, pas du tout au début, mais en bibliothèque, j'ai commencé à partir du tome 1. Parce qu'au début, on ne trouvait pas tout, notamment dans les centres commerciaux ou autres. Et du coup, la découverte du dessin, de l'humour des premiers Dragon Ball, alors que le Club Dorothée repassait en boucle Namek, Cell et les Saiyans. Je me rappelle forcément après Dragon Ball, quasiment à la fin de Dragon Ball, ma découverte de Dr. Slump, de l'humour absurde de cette œuvre que j'adore, que je trouve géniale. Bien sûr, de toutes ces illustrations pour Dragon Quest. Et Chrono Trigger, moi, c'est aussi comme ça que je l'avais découvert en tant qu'illustrateur de jeux vidéo. Voilà, je pense que une fois que Dragon Ball s'était terminé, j'étais un peu triste. J'ai toujours cherché quelque chose qui remplace Dragon Ball. J'ai compris au fur et à mesure du temps que je trouverais jamais quelque chose comme Dragon Ball, mais des trucs différents. Et je pense que c'est ce qui a poussé à ce que je devienne libraire, en fait, aujourd'hui.
Ah ouais, Baptiste. Carrément.
Ah, je pense que sans Dragon Ball, s'il y avait eu que Gaston,
le monde
Spirou,
aurait été privé de
Tintin, il n'y aurait pas eu.
Moi, c'est une découverte plus sporadique. J'ai vraiment découvert d'abord, effectivement, comme toi, la série télé, Club Dorothée, tout ça, mais jamais dans des épisodes continus. Tu sais, toujours, tu vois des bouts, etc. Mmh. Et il m'a fallu un temps assez long pour refaire, en fait, toute une espèce de chronologie de Dragon Ball.
Tu revenais le lendemain, c'était pas la suite.
Et ouais, il y avait ça. Il y avait aussi, parfois, tu revenais pas le lendemain. Et du coup, tu avais des bouts comme ça que j'ai vus et revus et d'autres que je n'avais jamais, voilà. Donc ça, pour moi, Dragon Ball, ça a été aussi le plaisir d'une redécouverte d'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire quand je suis devenu libraire, je me suis replongé dans Dragon Ball comme à la fois quelque chose qui m'avait marqué mais dont j'avais jamais vraiment eu peut-être une espèce de continuité globale et en même temps un élément massif, incontournable, indétrônable de la pop culture et de toutes les références qu'on peut avoir. Et ça, c'est un souvenir qui est incroyable. Et effectivement, le génie de cet homme, que ce soit dans l'humour ou dans le dessin et dans la manière même de lui-même de se moquer de qui il est, de ce qu'il fait, et toujours en même temps en faisant des récits incroyables, c'était génial.
Donc Dr. Slump, il casse plein de fois le quatrième mur.
Il casse plein de fois le quatrième mur.
Ouais. Moi, je pense que je suis celle qui a le rapport le moins important à Akira Toriyama, parce que du coup, j'ai vu des petits extraits de trucs à la télé, mais je suivais pas forcément. C'était plutôt mon petit frère qui regardait les rediffusions. Et du coup, je voyais qui étaient les personnages, mais sans plus. Et du coup, le premier truc que j'ai lu de Akira Toriyama, c'est Jaco, The Galactic Patrolman, qui est une histoire complète. À mon arrivée en librairie, du coup, j'étais déjà une jeune adulte. Et après, Mimoun m'a spoilé la meilleure blague de Dragon Ball. Du coup, j'ai commencé Dragon Ball, j'étais trop à fond. Je trouvais qu'effectivement, il y avait une expressivité dans le dessin et un humour qui fonctionnait vachement bien. J'ai été tout de suite accrochée à l'histoire. Et ensuite, j'ai passé la meilleure blague avec Krillin qui se bat contre Puanteur ou je sais plus quoi.
Alerte spoil.
Ouais. Pendant le tournoi, et j'ai vu la meilleure blague, et je me suis dit, du coup.
Mais non, il y en a d'autres.
Ça sert plus à rien que je continue. Et en plus, le fait que je sois libraire à l'époque et que j'ai plein de livres à lire n'a pas joué en la faveur. et j'avais lu le premier tome de Dr. Slump, et je crois que j'ai une petite préférence pour Dr. Slump que pour Dragon Ball. Mais c'est vrai que je suis un peu moins impliquée par... Enfin, je reconnais que c'est trop beau et c'est super expressif et c'est très bien dessiné. Et les bastons étaient assez lisibles, je trouvais, en plus. C'est ça que j'avais bien aimé aussi dans Dragon Ball, par moment. Et puis j'ai un certain temps été nommée Piccolo dans ma vie.
C'est vrai?
Ouais, par Mimoune. Parce que j'étais méchante au début.
Ah. Oh, les larmes que s'est réalisé, t'es devenue gentille
alors
et tout.
En fait, elle était méchante tous les matins à 10h05. Puis vers 11h30. Ça allait mieux. C'était comme ça au boulot.
Piccolo tous les matins. Et par contre, ouais, je m'étais dit peut-être que maintenant que je suis au chômage, Dragon Ball allait revenir dans ma vie.
Moi j'ai bien envie de me refaire les Dr. Slump du coup. La Perfect Edition elle a l'air pas mal en plus.
Là elle est cool la Dr. Slump.
De toute façon les Perfect Edition de Akira Toriyama je trouve que c'est les mieux.
Les Dragon Ball sont vraiment.
Et, ils ont et du coup il y a la version full color
qui arrive en mai. Genre, j'avais déjà regardé, c'est sorti il y a une dizaine d'années au Japon donc j'avais déjà eu l'occasion de voir des tomes. Voilà, c'est les couleurs d'Akira Toriyama qui sont utilisées sur la totale, les couleurs que lui utilisait sur ses illustrations, donc pas les couleurs du dessin animé, pardon. Après, est-ce que ça a de l'intérêt? Je ne suis pas sûr, faudra voir.
C'est 5 euros de plus que la Perfect Edition.
Je pense que je me contenterai de la Perfect si je veux les acheter.
Je pense que là, on a deux très belles éditions. La Perfect avec la nouvelle traduction, elle est géniale. L'édition originale avec les couvertures originales, elle est géniale aussi. Il n'y a pas besoin de plus.
Et pour la petite histoire, j'ai le tome 1 de Dragon Ball en japonais, car un copain était parti au Japon, Matisse, que je remercie du coup de me l'avoir offert. Et avait ramené pour un autre copain du Naruto, parce qu'on était en plein visionnage Naruto. Il m'a fait « Ah, toi, je sais que t'aimes pas trop. Du coup, bon, moi, je t'ai pris le premier tome de Dragon Ball. » Et c'est vrai que je l'ai refeuilleté. Bon, j'arrive pas mieux à lire le japonais qu'avant. Mais j'étais genre « Ah, c'est la classe quand même. »
T'as même pas besoin de le lire bien, parce qu'en vrai, c'est le dessin est tellement clair que tu crames direct.
Et à Angoulême, j'étais trop content parce que j'ai croisé
Akira Toriyama.
Brigitte Lecordier.
Ah,
la voix de Goku. Enfin, la voix pas que de Goku d'ailleurs, mais. C'était trop bien. J'étais juste genre, oh, bonjour madame. Ah bah votre voix a marqué beaucoup de choses quand même.
Elle est venue un jour à Bulle-en-Vrac, à l'époque où je travaillais à Bulle-en-Vrac. Et donc j'étais en caisse. Je l'ai vue rentrer, je l'avais reconnue, mais elle était derrière dans la boutique, donc je la voyais pas et j'entendais na 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 na. Ah,
merci, c'est moi qui vous l'offre. Et l'hommage de la doubleuse de Sangoku aussi, japonaise.
Ouais.
Et c'est aussi très émouvant à voir. Bref, si on passait à notre épisode 110 du Gaufrier, avec une transition du coup. À toi Baptiste.
On parle de manga.
Restons
sur les japonais.
On attaque avec le manga Thunder 3.
Alors tout d'abord qu'il me soit permis de m'excuser, non pas parce que j'ai écrit cette chronique tardivement, mais car en faisant cette chronique je vais être obligé malheureusement de vous enlever un tout petit peu du plaisir de la première lecture de Thunder 3. Difficile de faire autrement. Pour une fois, il faut reconnaître que ça ne m'arrive rarement, mais là, j'ai pris cet album sans l'avoir feuilleté. Et donc, en dehors de la couverture, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Cette naïveté, en fait, dans l'approche du récit a été une part importante, assez importante finalement, dans ma surprise à la lecture, plus tard. Donc, désolé. sur la couve, du coup, puisque j'ai commencé par ça, on voit comme une affiche de film trois gamins qui vont être le héros de cette histoire, de notre aventure, qui jaillissent en position de combat dans un style graphique très simple, un peu kawaii, avec au fond une explosion et le détail de quelques mechas, comme tiré d'un jeu vidéo, et un titre dont la graphie n'a rien à envier à un lancement de Street Fighter. Un mélange des genres qui me plaît bien et qui va donc me faire plonger dans un mix complètement inattendu. L'histoire commence avec ces personnages très mignons, trois adolescents un peu décalés et un peu cringe. Nous dirons qu'ils sont jeunes, ils sont préoccupés par les fantasmes de leur âge, les chocolats de la Saint-Valentin qu'ils n'auront pas, les nichons, les culottes et les phénomènes paranormaux. Accompagnés dans cette dernière passion par un de leurs profs un peu chelou lui aussi, rien de bien incroyable vous me direz jusqu'à maintenant, mais le contraste entre dessin enfantin et personnage chelou me plaît suffisamment pour continuer la lecture. Mais comme les personnages, sans que je le sache, mon monde est sur le point de basculer. Ayant récupéré chez leur prof, justement un peu chelou, un DVD qui est censé montrer une autre dimension, ils sont déçus de découvrir une caméra fixe sur un chemin certes très détaillé, mais rien de bien passionnant. C'est sans compter sur Futaba, la petite sœur de Piotaro, qui va passer dans l'écran, rentrer dans l'écran, et à ce moment-là, dans une autre dimension, qui se révèle alors tout droit sortie de la plume d'Hiroya Oku, le dessinateur de Gantz et Lastiro et Nyashiki, pour vous donner une idée de l'univers graphique. Donc rien à voir avec un chara-design mignon et kawaii. C'est la surprise de folie pour nos lecteurs, mais aussi pour nos personnages qui vont garder, eux, leur chara-design très plat, très simple, dans cet univers follement détaillé. Nos trois ados vont partir à travers l'écran à la recherche de leur petite sœur disparue et probablement enlevée. Difficile cependant de passer inaperçu quand vous ne collez pas du tout à l'ambiance graphique du monde au cours dans lequel vous entrez. Monde qui ne vous est pas totalement inconnu pourtant, puisque cet univers parallèle a de nombreux points communs avec votre propre univers de départ, à une exception près, des extraterrestres sont parmi nous. Amis ou ennemis, dangereux ou bienveillants, ils semblent surtout nous ignorer et veulent qu'on les ignore. Mais voilà, ils ont enlevé Futaba, il va donc falloir partir à sa rescousse. On plonge alors dans une succession effrénée de sujets propres au récit de SF, pouvoirs mystérieux, doppelganger, mecha, extraterrestres, etc. C'est un truc un peu fou ce manga. Et encore, j'ai vraiment fait, dans ce que je viens de dire, qu'effleurer le début du premier volume qui vous embarque beaucoup plus loin. Et j'imagine dans les suivants, probablement dans des endroits où on ne s'y attend pas. La maestria du dessin qui donne au récit une grande partie de sa saveur, le mix de ces deux ambiances graphiques est une vraie réussite et son incrustation dans l'histoire également. Mais c'est parce qu'il est soutenu par une histoire extrêmement bien construite qu'il devient pertinent et se rapproche plus du génie de Qui veut la peau de Roger Rabbit que d'un mauvais Space Jump. L'excentricité graphique se révèle au service de l'histoire et sert à amener la complexité inattendue du scénario et des émotions des personnages. En tant que lecteur, je me suis retrouvé embarqué dans un décalage entre le drôle, le mignon, le tragique avec les personnages du récit.
Et le cringe
un petit peu. Je suis vraiment allé de surprise en surprise en lisant cet album et j'ai plus que hâte de lire la suite de cette série actuellement en cours au Japon avec 5 volumes de sortie. Merci Yuki Ikeda.
C'était donc Thunder 3 de Yuki Ikeda qu'on peut retrouver chez Pika Édition. Donc pour l'instant un seul tome en français mais 5 en VO pour 8,20€. Charlotte, qu'as-tu pensé de ce petit chien qui accompagne nos trois?
Chien. Alors, effectivement, il y a un chien. Et c'est drôle que tu parles de Roger Rabbit parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps.
Il est si bien, ce film.
Et bah, oui. Moi, je l'ai trouvé un peu ennuyeux.
Il est cringe aussi.
Je l'ai trouvé un peu ennuyeux et cringe.
Pas la trompette.
Un petit peu comme Thunder 3, finalement.
Ça me va.
Voilà. J'ai pas du tout aimé. J'aime pas déjà Yuki Ikeda. C'est ça son nom?
Pas. Oui.
Yuki
Ikeda.
J'ai essayé Gantz, j'ai trouvé ça horrible.
C'est pas le même auteur.
Alors, c'est pas le même auteur.
On n'est pas sûr.
Ah. On n'est pas sûr.
Il y a une rumeur sur ça.
Ok.
Possiblement, ah oui. ça pourrait être lui, mais on n'en est pas sûr.
Ok.
Ça rappelle l'univers graphique. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vu.
Même le design des extraterrestres, je trouve que ça ressemble à ce qu'il fait.
Hiroya Oku. Oui, on est d'accord, on en parlait avec Mimonière.
Après, bon, voilà. Dans tous les cas. J'ai pas aimé Gantz, j'ai bien aimé la Steve Royen Inuyashiki.
Ah bah quand même.
J'ai pas aimé les autres trucs qu'il a fait. Et ça me l'a rappelé un petit peu. Et j'ai trouvé ça quand même assez plat. Et j'arrive pas à voir où il veut en venir et il m'a pas du tout intéressé. Et je trouvais que justement, il fait que. Toi, dans ta chronique, tu me disais que tu ne faisais que fleurer tout ce qui se passait dans le tome 1. Moi, je trouve que au compte, enfin, tu vois, c'est lui aussi même qui fait que effleurer des trucs et qui ne passe pas, enfin, qui raconte rien d'intéressant. Et du coup, je pense que je ne retiendrai pas forcément ce manga très fort. En tout cas, j'ai pas très envie de lire la suite. Désolé.
Mimoun,
Une couve qui donnait vraiment envie. Moi, je trouve que t'as raison de parler de ça. Avec ce dessin rétro enfantin, un peu Kodomo pour manga pour enfants, on sait pas à quoi s'attendre du tout, c'est vrai, et c'est quelque chose d'assez original pour que forcément on ait envie de l'ouvrir et de le lire. Des blagues ultra, je le redis une dernière fois parce que tu l'as utilisé le terme, donc je l'utilise, cringe, avec la petite sœur Futaba est amoureuse de son frère.
Ouais, le début.
Mais non, c'est une petite fille.
Non, mais c'est le Japon.
Elle est passionnée par son frère.
Et la façon dont c'est traité est très gênante.
C'est le Japon.
Elle porte son caleçon, machin. Enfin, que des trucs ultra gênants.
Le pote, il veut que chercher des culottes, c'est sa passion dans la vie. Genre, ah, peut-être on verra des culottes. Est-ce qu'il y a des culottes par terre? Ça se trouve, on va trouver une culotte.
Ça, c'est cringe. La petite fille, je trouve pas ça cringe. Oh, je trouve que c'est le traitement d'un auteur homme,
logiquement,
je suis d'accord
qui
avec
écrit ça. Mais donc, toute cette partie humoristique, moi, ne marche pas. Bien sûr qu'une fois passé le monde parallèle, moi, j'aime bien les récits qui jouent sur des décalages graphiques, où on joue sur un dessin simple, caricatural et un dessin beaucoup plus réaliste. Donc ça me parle, ça me donne envie de lire la suite. C'est pas non plus un coup de cœur. C'est un livre qui m'interroge, qui me questionne, où j'ai envie d'aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que le début avec cet humour-là, c'était pas pour me plaire, on va dire. Alors que la suite, elle, pourrait être intéressante. C'est un premier tome, on va voir avec la suite aussi. D'ailleurs, juger un manga sur le premier tome, on le sait, hein, souvent quand on propose des mangas, on essaie de proposer 2-3 tomes. C'est parfois un peu difficile. Si ça se trouve, je te dirais aux 2 ou 3 que bah voilà, ça marche mieux et peut-être qu'il a corrigé ses erreurs. Mais si c'est l'auteur de Gantz qui est derrière ce livre, il ne corrigera pas ses erreurs, il ira toujours plus loin. Je me rappelle, pour parler de Gantz, bon, j'ai lu toute la série au début, c'était sympa. Puis ça devient très vite redondant. Et puis la conclusion, elle est naze. Quand on a des explications. L'Astiro, je trouvais que ça marchait, en effet. Il a fait Gigante. Qui est pas ouf et où clairement il va dans le fanservice à fond et c'est horrible et j'ai peur qu'on y arrive là aussi malgré
tout. Petit problème avec les meufs,
exactement.
Mais
c'était le cas dans Gantz déjà.
À part le fait qu'effectivement on en a parlé hier et du coup moi j'avais pas, enfin j'ai reparé tout de suite, hein, tu repères tout de suite que ça fait tilt avec le dessin d'Hiroya Oku. Moi je pensais pas effectivement que ça pouvait être un pseudonyme comme tu dis et que du coup peut-être il serait derrière tout ça, donc j'espère que moi ça va bien se passer. Mais
peut-être pas pour Charles.
Je comprends ce que tu dis, Charlotte. Après, comme dit Moon, c'est vrai que sur un premier volume, c'est un peu compliqué d'avoir un développement de thématique qui soit déjà très avancé, surtout sur du manga. Après, je trouve qu'en fait, il y a déjà tellement de surprises et de choses inattendues et d'éléments qui vont être amenés à être découverts, enfin, qui vont être amenés à être développés. Hein, que font ces extraterrestres parmi nous? Enfin, voilà, qu'est-ce que je trouve que du coup, il y a déjà beaucoup de thématiques en fait qui sont en jeu derrière, même si on n'a pas leur développement et qu'on va voir comment il va les traiter. Mais je pense pas qu'on puisse dire que c'est un peu vide ou.
Moi, j'ai pas été surprise dans le sens où il reprend vraiment tous les classiques de la science-fiction, tu vois, genre on passe dans une autre dimension, l'un d'entre nous se fait enlever, il faudra nous sauver, et il y a des aliens et on sait pas trop ce qu'ils font là, est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, et du coup pour l'instant je suis pas encore très surprise. Et du coup la lecture elle a été, en plus je partais avec l'a priori négatif où le libraire chez qui j'ai emprunté ce manga m'a dit que c'était potentiellement l'auteur de Gantz.
Ah ouais, mais voilà, donc, si en on plus, fait des spoils comme ça,
j'avoue j'étais un petit peu j'y suis allée un petit peu à reculons déjà. Mais j'ai pas réussi à passer outre cette a priori en tout cas. Et ouais, moi j'ai fait qu'effleurer la lecture et j'ai pas envie d'aller plus loin quoi.
Alors que si t'avais dit que c'était l'auteur de The Last Hero Inuyashiki, est-ce que ça t'aurait un peu plus envoyé du rêve ou non?
Parce que je sais ce qu'il a fait d'autre.
Peut-être que c'est pas les biais, tu vois, il faut.
Peut-être que c'est l'un de ses assistants et c'est sa première œuvre et c'est peut-être lui qui faisait les décors en vérité en grande partie. Enfin, on sait rien, on verra.
Moi, je crois qu'on en avait parlé quand c'était sorti. Ça m'est sorti de la tête. Du coup, je l'ai repris et j'ai complètement oublié qu'il y avait cette histoire de changement d'univers parallèle. Et quand je commence à lire le dessin et le fait de balancer 40 références jeux vidéo, citer des trucs, les trucs très cringe du Japon, avec moi, la petite sœur, j'ai pas du tout réussi. J'étais vraiment genre, oh là, j'espère que ça va s'arrêter très vite cette histoire.
C'était horrible.
Ça s'arrête très vite. Ça dure.
Ça dure
5 pages. Ouais.
Cette petite sœur relou, peut-être qu'elle est mignonne.
Ah ouais, moi j'ai. Oh non, partez pas là-dessus, s'il vous plaît. Et le passage dans le monde parallèle m'a quand même accroché. Enfin, tout ce qui s'y passe et tout. Je suis genre, ok, ça peut être sympa. J'attends de voir le tome 2 quand même. Comme je disais, mais avis très mitigé. Donc après une histoire de 3 gamins qui changent de monde, place à une histoire d'un enfant qui se retrouve malgré lui embarqué dans un univers étrange. À toi Mimoun avec le roi Méduse.
2024 a à peine débuté, que je peux déjà dire sans exagérer, qu'on tient le prix de la meilleure couverture de l'année, ou au moins un sérieux prétendant au titre avec ce roi Méduse. Non mais regardez-moi ça. Ce jeu de cartes en chute libre où chacune d'entre elles a un angle différent et représente un personnage de la BD. Le titre du livre et le nom de l'auteur sont presque en retrait pour laisser place à cette composition qui sort de l'ordinaire, mais on reconnaît immédiatement la patte caractéristique de l'auteur flamand Brecht Evans. Si vous avez déjà lu ses livres, vous savez de quoi je parle. Tant depuis 2010, Brecht Evans a créé sa propre forme de BD. Tout en aquarelle et en gouache, il alterne grande toile et planches de BD, n'utilise pas de cases fermées ni de bulles pour faire parler des personnages. On comprend immédiatement qui s'exprime grâce à la couleur du texte. Ici, dans Le Roi Méduse, l'histoire est racontée à la première personne. Arthur, un jeune enfant, grandit avec un père tellement peu présent dans ses premières années qu'il a du mal à reconnaître sa voix et son visage. On comprend le père déprimé, mais quand, à 10 ans, Arthur se met à dessiner compulsivement, le père sort de sa torpeur, fasciné par son fils, fait preuve d'affection envers lui pour la première fois et décide enfin de l'élever. À travers le regard d'Arthur, on découvre cette éducation. Si l'enfant semble euphorique tant son père lui apprend de choses variées et lui donne une vision très poétique du monde, le lecteur, lui, à travers quelques détails dans le dessin, comprend très vite que quelque chose cloche. Et si ce père était dans un délire complotiste, voire sectaire, coupant son fils de la réalité? Et si un jour ce père disparaît pour une raison X ou Y, comment Arthur va-t-il s'en sortir dans un monde dont il n'a pas les codes, duquel il est totalement étranger? À chaque double page, Brecht Evans tente une nouvelle technique graphique, un nouveau type de narration, faisant vivre au lecteur une sorte d'euphorie proche de celle de l'enfant. L'idée de tourner la page, et de découvrir la suite. L'une des autres qualités de cet album, c'est aussi de jouer constamment sur un double niveau de lecture, celui d'Arthur, enfant qui ne comprend pas tout, et celui du lecteur qui en comprend plus à travers des détails disséminés dans les planches. Ici, le dessin sert parfois de texte. Inventif, beau et très plaisant à lire, Le Roi Méduse est une occasion de découvrir l'auteur flamand pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. Différent de ses précédents livres en termes de narration, j'ai hâte de découvrir le second et dernier tome de cette histoire prévue pour fin d'année ou début d'année 2025.
C'était donc Le Roi Méduse par Brecht Evans, que vous pouvez retrouver chez Actes Sud pour 32€ et pratiquement 300 pages. Le dernier à l'avoir lu par ici, c'est Baptiste. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui, c'est vrai que je l'ai lu avant d'arriver. C'est Brecht Evans, j'ai envie de dire ça et puis de me taire. C'est un génie. Je pense que je ne me lasserai pas de lire ses œuvres, puisque, comme l'a très bien signalé Mimoun, elles sont à chaque fois différentes. Enfin, moi, jusqu'ici, à part peut-être avec Les Amateurs et Les Noceurs, il y a une parenté sur l'écriture, mais là je trouve que depuis quelques temps il nous emmène à chaque fois dans des styles de récit, dans des manières de donner son récit qui sont complètement différentes, et ça c'est génial. J'avais pas l'habitude de le voir sur ces espèces de gaufriers à deux cases qu'il a très régulièrement dans cette BD, qui pour moi sont très nouveaux dans son style et qui m'ont complètement plu sur sa manière de gérer l'espace. C'est un récit qui est effectivement comme un peu dans Panthère. Il m'a rappelé un petit peu Panthère. À la fois, c'est un récit qui est fascinant. On a envie de croire on a envie de croire avec cet enfant au monde que son père lui décrit. Et moi, il y a plein d'un moment, je me suis dit, mais ça se trouve, en vrai, il a raison. Et ils ont raison, tu vois. Alors que clairement, ils sont vraiment dans un truc complotiste absolument affreux. Mais ils donnent envie à travers le regard de cet enfant qui nous retransmet si bien et qui fait ça aussi pour sauver son père d'un certain côté. Ils donnent envie d'y croire, et on se retrouve du coup complètement, pour reprendre le mot cringe de la chronique précédente, dans cette ambiance là et qui rappelle beaucoup Panthère, où très vite on se rend compte qu'il y a un malaise dans ce qui est en train de nous être raconté. Cette double lecture entre nous, ce qu'on lit, et ce que l'enfant vit, est aussi très très forte. Non, j'ai adoré, les personnages sont tous, au début j'ai un peu peur qu'on ne reste que sur le père et l'enfant. Et je me suis dit, sur deux volumes, ça va être un peu long, et très vite, de manière très bien, il amène d'abord un personnage un peu deux personnages mystérieux, une femme et puis un espèce de pirate, puis il y a les enfants
qui
de l'école qui n'est pas un pirate, j'ai dit une espèce,
ouais.
Qui n'est pas un pirate, mais qui se bat avec un perroquet, mais
qui n'est pas un pirate.
Mais qui a une jambe de bois, mais qui n'est pas un pirate. Les enfants de l'école, j'ai beaucoup aimé le moment où il ouvre le monde du père et de l'enfant, voilà, aux autres à l'extérieur, et particulièrement la première partie où moi il m'a perdu dans la temporalité. J'ai adoré, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était passé 10 ans quand ils sont dans les bois, qu'il avait été élevé comme une espèce de mougli, enfin voilà, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu regardes le gamin, il a grandi, mais il a quoi, il s'est passé 2 mois, c'était un petit truc, voilà, et je trouvais ça génial.
J'ai hâte.
J'ai trop aimé aussi.
C'était dans ta sélection aussi.
Je l'avais
aussi.
Mis dans ma sélection aussi. La couverture, effectivement, elle est folle. Il a une inventivité graphique et dans la narration qui, à chaque fois, me surprend et m'impressionne. Et j'ai trouvé qu'il y avait, t'en as un tout petit peu parlé Baptiste, mais une tension qui grandit tout au long de l'album, qui fonctionne super bien et qui marcherait pas aussi bien justement s'ils étaient restés que à deux tout du long.
Ouais.
Et où du coup effectivement t'as des moments où tu y crois, tu dis genre mais attends, peut-être qu'il se passe vraiment un truc, et puis après tu dis mais non, mais c'est trop bizarre, et du coup tu te perds un peu dans le récit et ça fait monter la tension et t'as envie que ce petit Arthur il a réussi à s'en sortir, et oui, ça m'a complètement emporté. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Je sais pas trop quoi dire de plus que mes camarades, mais
en fait, c'est l'épisode des couvertures. On va parler de ma couverture, on va parler de ta couverture, on parlera peut-être de la tienne après.
On va en parler.
Allez, ouais,
de toute
chaque
façon,
chose en
je
son temps.
Sais que vous allez être méchant avec moi, non, mais c'est pas grave, vrai, c'est je suis prête. et non, bah du coup, j'ai rien à dire de méchant sur Brecht Evans.
Ouais. Moi, je m'attendais pas que ce soit en deux tomes, par contre. Enfin,
je suis d'accord.
J'étais un peu mitigé de ne pas avoir de fin à la fin de cette lecture.
Ah, moi, j'avoue que j'aime bien le fait qu'il développe tranquillement les choses. Tu vois,
et puis je trouve que le moment où ça s'arrête, ça fonctionne bien aussi. Oui. Enfin,
c'est une très très bonne fin de tome d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Des fois, tu as des découpages où c'est en deux tomes et tu dis genre pourquoi vous avez fait ça là. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt si ce n'est de s'assurer une autre vente derrière.
On a là, 300 pages. Il avait fini là, à la sortie de l'album, la moitié du tome suivant. Donc il est très avancé et je pense que en termes de comment dire d'idées autres, enfin il sait à peu près où il va. C'est pour ça que lui et l'éditeur peuvent assurer une sortie en fin d'année ou début d'année prochaine. C'est parce que c'est proche. Graphiquement, pour parler par rapport au précédent, moi j'ai l'impression qu'il a testé des trucs nouveaux. J'ai l'impression d'avoir vu de la gravure, des choses qu'on n'avait pas vues avant chez lui. C'est vraiment cette euphorie graphique, moi, qui m'a aussi beaucoup plu de le voir tester des choses.
Il y a une ingéniosité dans la façon, effectivement, qu'il a de nous montrer qu'il y a un truc qui cloche, ouais, qui était déjà un peu le cas dans Panthère, mais qui là est encore accentué, où tu vois, ouais, ça passe tout autant par le dessin que par la lecture des cases, et c'est ça qu'on aime dans la BD finalement.
Où Panthère était glauque, et c'est parce que c'était glauque qu'on le comprenait. Là, il arrive pour l'instant de ne pas être glauque, peut-être que ça arrivera plus tard. Moi, je trouve qu'on l'est quand même moins. En fait, on est dans un jeu d'enfant. Mmh. Comme c'est lui à la première personne, on voit aussi le jeu d'enfant, on est du côté de l'enfant. En fait, il rapproche le complotisme du jeu d'enfant, du délire qu'on se fait dans la tête. Et je trouve qu'il y a de ça dans ce truc. C'est à la fois ce qui le rend euphorique, c'est en même temps ce qui, parce que nous, on est des adultes et qu'on lit comme des adultes, devient flippant. Et ce que j'aime pour le coup beaucoup, c'est que finalement, si on regarde ces trois derniers bouquins, t'as le truc quand même qui était très glauque et très clivant de Panthère, qui faisait mal au lecteur, en fait, où il venait te bousculer en tant que lecteur. T'as une histoire, moi, que j'ai adorée, c'est les rigoles, mais en fait, où il raconte rien. C'est trois bouts de vie, c'est trois moments, mais j'avais trouvé ça extrêmement bien écrit. Et là, il fait une histoire, vraiment, une histoire avec un début, avec une fin, j'imagine.
Oui, c'est peut-être celui qui est le plus
développé en termes
de
narratif. Raconté à la première personne, donc c'est facile à lire. Donc c'est aussi, facile de se reconnaître dans le personnage. Et en même temps, avec un deuxième niveau de lecture, où il y a certaines pages, je les redécouvre en les montrant au lecteur, en fait. Je redécouvre des éléments en les montrant, en tournant les pages dans la librairie. Je me dis, ah tiens, j'avais pas vu ça.
Moi, je l'ai lu qu'une fois pour l'instant, et effectivement, je suis sûre que quand je vais le relire, je vais redécouvrir mille trucs différents que j'avais pas capté du tout à la première lecture, et là-dessus, c'est trop fort.
Moi, j'apprécie beaucoup qu'il soit tenté, comme on avait eu que des one-shots de lui, qui tente le récit, enfin, de voir qu'il est aussi bon, en fait, sur la construction de récit en plusieurs volumes. Je trouve que c'est, du coup, une très très bonne nouvelle. C'est chouette.
Et vous pensez que la couverture du 2, c'est la suite des cartes qui tombent, c'est le château de cartes qui s'effondre?
Je pense, oui, parce que regarde sur le dos. C'est pareil, on voit
oui,
une
la
partie
moitié
de l'enfant.
Personnage.
Est-ce qu'on va pas voir la partie de l'enfant plus grand? Enfin, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça qui va se compléter. Je me dis qu'il doit y avoir un lien entre les deux couvertures.
Est-ce qu'on en saura plus sur la mère? Parce que tout.
Je pense pas.
Morte, oui, non, mais qu'est-ce qui s'est. Est-ce que le père était comme ça avant l'arrivée d'Arthur ou pas?
Non, moi, de ce que j'ai compris du début, c'est ce que tu voulais peut-être dire, Mimoun.
Non, mais vas-y, je te laisse.
Mais c'est que c'est à cause de la mort de la mère que le père a viré. Okay. Dans la dépression, puis dans le conspirationnisme.
Ouais, ouais.
Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
Ouais, ouais. Eh bien, merci bien. On va passer à l'épreuve des recommandations des libraires.
Ouh.
Un jeu, un tout nouveau jeu, où ce sont les gaufrettes qui ont tout fait.
Yes.
Et ça, c'est pas mal. Ça me fait gagner du temps. Elles m'ont envoyé des photos de recommandations dans leur librairie. Et c'est à vous de trouver de quel
coup de
titre
yes.
il s'agit. Donc, bon, il y a beaucoup de nouveautés. J'espère que ça ne va pas trop surfavoriser Mimoun, qui se met déjà en position pour gagner.
C'est vrai.
Et
il n'y a que de la nouveauté, c'est chaud.
Il n'y a pas que de la nouveauté. Alors, du coup,
c'est le handicap ramadan.
Je remercie toutes les gaufrettes qui ont participé. J'en ai surtout gardé plusieurs en stock en me disant que. Vu que c'est des nouveautés, peut-être que...
Des gaufrettes en stock.
Des gaufrettes en stock.
Ok, on a un petit creux.
À 19h15.
Alors, le premier titre. Une plongée fascinante dans les méandres de la création et l'acharnement qu'il a fallu au personnage principal pour franchir les obstacles qui ont amené à la naissance d'un mythe.
C'est trop dur.
Merde, comment il s'appelle le... j'ai oublié le titre. J'ai une idée, mais ça se trouve, c'est pas ça, mais j'ai oublié le titre. De Jérémy Moreau.
Les Pizli ?
Non, celui qui a reçu un prix à Angoulême.
Oui, Grimm.
Grimm, la saga de Grimm.
Non, c'est quelque chose de plus récent, c'est une nouveauté.
Bah, il a dit qu'il n'y avait pas, que,
c'est pas
des
que des nouveautés.
C'est l'œil d'Odin ?
Non, c'est pas l'œil d'Odin.
Tu peux redire le truc ?
Ouais.
Attends, j'étais en train de chercher quand est-ce que c'était sorti et j'ai pas la date sur là où je suis. 4 octobre 2023. Je reviens. Une plongée fascinante dans les méandres de la création et l'acharnement qu'il a fallu au personnage principal. C'est pas un personnage fictif. Pour franchir les obstacles qui ont amené à la naissance d'un mythe. On parle d'une personne bien réelle.
La biographie de...
Oui.
Comment il s'appelle celui qui fait... Oh là là, et dis donc Toulouse et compagnie, là.
Le dernier jour de Lovecraft.
Le dernier jour de Lovecraft.
Ah non.
Mais
en fait, j'avais fait une blague et du coup, ça aurait donné la réponse.
je perds les noms de personnes, mais j'ai les trucs qui se raccrochent. Donc, c'est la biographie d'un auteur.
C'est pas
auteur.
La biographie d'un...
En hâte de poser des questions.
C'est pas la biographie d'un auteur de livre.
Ok. Jeu vidéo ?
Non.
C'est pas le truc sur celui qui fait Donjons et Dragons ?
Non, c'est Star Wars.
C'est Star Trek.
La guerre des Lucas ?
La guerre des Lucas, ouais.
La guerre des Lucas de Renaud Roche et Laurent Hopman chez Deman Édition. Et c'est Crapaud qui l'a trouvé chez Le Fayard. Et donc c'était la recommandation de Ludovic chez Le Fayard, si jamais vous le connaissez, que vous voulez dire. Tire du mal de lui.
Ou du bien.
Moi, je connais plus Fred de Le Fayard que Ludo.
Ah, j'en ai pas. J'ai pas de Fred. Allez, on passe.
Il y a un Fred dans chaque librairie rennaise.
Il y a un Fred PBD
dans toutes les villes de France.
Par ville de France.
L'auteur ébloui avec ce nouvel album qui aborde pourtant plusieurs sujets sensibles. Nous suivons, avec toute la poésie qui caractérise l'auteur, un jeune garçon sous l'emprise complotiste de son père.
On attendait un petit peu tous.
Et moi, je me suis dit, c'est peut-être pas ça.
C'est ça, il y a peut-être autre chose derrière. Bon. Non.
Les planches de Brecht Evans, toujours aussi splendides, nous embarquent à la frontière de la folie.
Ah oui, c'est l'auteur.
Oui, mais je l'avais retiré. Et c'est Kéronron qui l'a trouvé à la librairie Bulle.
Au Mans.
Le Mans, ouais.
Ça va être le deuxième jeu, ça.
Ah ouais.
Les librairies
avec bulles.
J'arrive.
Vraie librairie ou fausse librairie?
Je suis pas sûr que t'es capable d'en trouver des fausses.
Avec des noms de bulles.
Genre, j'avoue.
Peut-être.
Fun en bulles.
J'avoue, des noms. Oh, le jeu des noms de librairie. Ah ouais. Je note ça dans un coin. Alors, que se passera-t-il lorsque les dernières ressources de la planète Terre seront épuisées?
Renaissance?
Non. L'auteur nous propose une BD entre SF et récit d'anticipation.
L'âge d'eau ?
Non.
Laisse-le finir. Laisse-le parler.
Où les humains partent à la conquête de l'espace.
Arca ?
Non.
Shangri-La ?
Non.
Là, ils ont le droit.
Non, mais en vrai, j'ai pas d'idée en SF là actuellement.
Frontière ? Oui.
Ah bah oui, bien joué.
Frontière de Guillaume Saint-Gelin. C'est à travers deux héroïnes en quête de rédemption et un homme à la recherche d'identité que nous embarquons dans une formidable aventure interspatiale. Et c'est de nouveau Crapaud qu'il a trouvé chez Le Fayard. Et j'ai pas le nom de la personne. Alors, à peine arrivé au Japon, le personnage principal, dont le rêve est de devenir mangaka, est embarqué dans une série d'événements auxquels il ne s'attendait pas. Enlèvement, course-poursuite dans les ruelles de Tokyo.
Tokyo Café Mystery.
Tokyo Mystery Café. Oui.
C'est pas récent, ça, si?
Si, si, c'est janvier ou février. Ah non, alors, c'est après Angoulême, je crois, ou juste avant.
C'est l'autrice de... Non, c'est pas ça.
C'est l'Atelier Sento.
Atelier Sento chez Dupuis. Je ne sais... okay. Et du coup, Atelier Sento, c'est un collectif?
C'est un couple d'auteurs.
Ah, ok.
Ah non, bah alors c'est pas c'est ça que je pensais.
Parce que l'autrice de Tokyo Tarabera Girls, elle a sorti un autre truc avec Tokyo encore.
Tokyo Tarabera Girls 2, ou un truc...
Détective Gourmet. Mais ça, je l'ai pas encore lu.
C'est elle, Détective Gourmet?
Je crois que c'est elle, Détective Gourmet.
Je savais pas. Et elle a sorti aussi des webtoons en... qui sont sortis en BD qui sont pas... J'ai lu le premier tome, c'était pas ouf.
Comme les webtoons en BD. Et c'était grâce à Exil.
C'est arrêtez d'être méchant avant même que j'ai commencé de faire ma chronique, s'il vous plaît. Ça fait trois pics que je me suis reçu depuis le début de l'épisode.
On retourne chez Le Fayère, grâce à Grappo, avec ce titre. Que nous reste-t-il des amours de nos jeunesses? Non.
Pas du tout. Que nous reste... non, c'est moi, j'avais déjà.
J'ai juste malgré tout.
Alfred.
J'ai juste. Oh. J'ai inversé des mots. Que reste-t-il de nos amours de jeunesse?
Ah bah oui, ça pourrait être. Malgré tout.
Non.
Alfred Senso.
Non. Quels souvenirs, quelles émotions? À travers plusieurs témoignages, des personnages nous racontent leurs expériences touchantes. Ah. Parfois tristes et émouvantes, c'est leur amour nostalgique. Pour public averti.
Ah.
Première fois?
Non.
Amore?
Non.
C'est un truc récent, le bouquin?
J'ai pas.
Je me demande si c'est si c'est récent que ça, parce que moi, ça me parle,
Fabien
mais...
Non, c'est pas le Fabien Toulmé. Ça, c'est les personnes marquantes de leur vie.
Est-ce que c'est un même dessinateur, par contre, pour toutes les histoires?
J'ai qu'une
t'as
personne.
T'as que le titre, d'accord.
Non, j'ai qu'une personne créditée.
Oui, pourquoi ça me parle, ça? Un truc qui se passerait en Orient?
En Orient?
Pas tant. Il me semblait que... Non, mais je vais encore peut-être écouter.
C'est sorti en... 23 février 2024.
Ah oui, non, alors c'est pas du tout
ah
ça.
Ah oui,
quoi,
bon,
je
alors je l'ai pas du tout.
Attends, est-ce que c'est le Champ des Possibles?
Non.
Mais Mimoun va faire toutes les lectures. De...
C'est un...
Je vois pas ce que c'est.
Seinen.
Ah. C'est un Seinen.
Non, mais...
Chez Nueve Graphics.
C'est pas lu.
Non, ouais, je vois pas ce que c'est.
Confidence nostalgique de Tagawa Tomata.
Et c'est des vrais, c'est vrais témoignages.
C'est un vrai témoignage chez Le Fayard.
Ça peut être intéressant, ça.
Grave.
Ça, c'est Clara chez Le Fayard qui a fait la.
Oui.
Là, il n'y avait pas de nom, je crois, sur la photo. Hop, j'arrive. Alors, où est-ce qu'on va? Ah, là, c'est Coma qui nous a envoyé une photo sans m'indiquer la librairie. Peut-être qu'il n'a pas envie de se faire cramer. Vous cherchez une histoire qui porte sur les différentes manières d'aimer, sur l'investissement qu'on
le
met
champ
dans
des possibles.
Le champ des possibles d'Anaïs Barnabé et Véro Caso. Sur l'investissement qu'on met dans une relation, sur le virtuel et le réel.
L'idée,
vous devez lire cette BD. Les questionnements de XXX, amoureuse d'un homme dans la vraie vie et d'un autre qui a créé son monde parfait en vers, ne nous laisseront pas indifférentes. À noter que c'était écrit en écriture inclusive. Ce n'est pas tout le temps le cas.
Ça t'a laissé indifférent, Mimoun?
Je n'en parlerai pas là.
Je contacterai mon avocat.
Que ce soit chroniqué.
On repart encore chez Le Fayard parce que Crapaud était très...
Très efficace.
Il filait beaucoup. En fait, j'en ai reçu pas mal après avoir préparé l'épisode, donc j'ai gardé en stock. Le récit est sombre, pessimiste, mais reste néanmoins un magnifique hymne d'un homme sur la beauté du monde.
Ah, c'est
du Tsugé ?
Non, non. L'auteur signe encore une fois un album marquant qu'il décrit lui-même comme son plus abouti. C'est tout.
Ah, shit.
Oh.
C'est sorti ou c'est pas encore
le
sorti,
page,
sorti.
Le Page et Baudouin, là ?
Non.
Non. Tu peux redire le début, j'ai oublié de quoi ça parle.
Le récit est sombre, pessimiste, mais reste néanmoins un magnifique hymne d'un homme sur la beauté du monde.
C'est
sur la
Rochette ?
Nature.
Oui.
C'est...
La dernière reine.
Ouais. La dernière reine.
Ah. Okay. Oui, je tout me suis
merci,
un truc ça, pessimiste ça. Sur la beauté du monde.
Oui. Je comptais là-dessus. Voilà. Je comptais vraiment là-dessus.
Ça doit être Rochette.
J'avoue, j'essaie de trouver des trucs plus récents. Et...
Je tournais sur des trucs récents, je trouvais pas.
Ah, c'est dur, hein. Parce que comme on sait pas forcément la période, ça peut être. C'est incroyablement dur. Mmh. C'est trop fun.
Alors, une pépite. Un
point.
Roman... point d'exclamation.
Un... snug.
Bon.
Un roman initiatique qui ne laisse pas indemne. Un ton juste qui permet de s'identifier et des préoccupations dans l'air du temps.
Thunder 3
Non. T'as une date de sortie?
Je vais trouver ça. C'est Kéron qui a trouvé ça à la librairie Doucet.
Refait? Un récit initiatique, c'est ça? Non, pas la librairie Doucet.
La librairie Doucet, elle est où à votre avis?
Je sais pas.
Dans le Doubs.
Oh.
Bah, sachant que c'est la même personne qui a ramené de la librairie Bulle, je dirais que c'est au bon aussi.
Oui.
Une pépite. Un roman, entre guillemets, initiatique qui ne laisse pas indemne. Un ton juste qui permet de s'identifier et des préoccupations dans l'air du temps.
Ah, ça marchait bien, David Snug.
Oui.
Peut-être pas le roman initiatique.
Janvier 2024.
Ok.
2024.
Roman graphique.
Pas lu.
Bah oui, parce qu'elle a mis roman, entre guillemets.
Ah.
Et que ça doit être une librairie générale.
Moi, je pensais que c'était roman initiatique qui
l'a
fait.
Pas lu.
Moi, je l'ai lu.
Comment tu sais que je l'ai pas lu?
Ça veut dire que vous en avez déjà parlé.
Ah mince. Et qu'on a, tu as dit que tu l'avais pas lu.
On a parlé.
Qu'est-ce qui a été chroniqué dans le dernier
épisode? Du coup, c'est au-dedans. C'est au-dedans, c'est ça?
Ouais.
ODD.
Au-dedans de Will MacPhail.
C'est spécial dédicace à Christopher, vous comprendrez en écoutant le précédent.
On a écouté les épisodes où on a choisi de être.
Vas-y.
Hop. Alors,
on a choisi.
Bon, on va écouter ça ce soir.
L'emploi du temps.
Il en reste deux. Alors, chez Le Fayard par Audrey. Et c'est Crapaud qui nous envoie ça encore. Et si la puberté était aussi cataclysmique qu'une fin du monde? L'autrice propose une BD sensible sur les affres de l'adolescence.
It's Lonely in the Center of the Earth?
Non.
14 ans?
Non. L'autrice propose une BD sensible sur les affres de l'adolescence, sur l'idée de rentrer dans un moule et d'être à contre-courant. Délicat, intelligent, tout ce que l'on aime à partir de 13 ans.
Oh.
16 ans? Il n'y a pas une BD qui s'appelle 16 ans?
Je vais chercher des infos.
Si t'as la date de sortie ou quoi, c'est subi.
C'est plutôt de la jeunesse, du coup, de l'ado de la jeunesse.
Janvier. C'est sorti en janvier. Par une scénariste et dessinatrice.
Elle fait les deux.
Elle fait les deux. Et si la puberté était aussi cataclysmique qu'une fin du monde? L'autrice propose une BD sensible sur les affres de l'adolescence.
C'est pas le grand autre?
Non. Sur l'idée de rentrer dans un moule et d'être à contre-courant.
Est-ce que c'est la BD avec Alicia Keys? Non.
Non.
C'est pas une adaptation de roman en jeunesse, Les Petites Reines ou un truc comme ça?
Non.
Je crois que ça a été adapté récemment.
Ah oui, ça a été adapté par Magali Lehuche, mais c'est sorti vers la fin de l'année dernière.
Angoulême.
Ah,
c'est chez Sarbacane.
Oh.
Et c'est le deuxième titre de l'autrice qui a fait...
Ah, c'est La Mousse.
La Mousse.
Ok.
Tout à fait.
Ah oui.
La Mousse de Nina Six.
La Mousse. Après le rasoir. La Mousse.
Après, vous êtes tous les deux passés chez mon enfant, vous aurez vu que c'est en dédicace bientôt.
C'est La Mousse de Nina Six. Et oui. Après Les Pissenlits, son premier titre.
Absolument.
Et c'est auto-fictionnel.
Les Pissenlits, je crois que ça me dit un truc, mais alors La Mousse,
mais
pas
ni
du tout.
Ni La Mousse, ni Les Pissenlits. Oh.
Ouais, attention,
il
fallait à la
regarder
mousse.
Le planning de dédicace chez mon enfant.
On est mauvais.
Ah oui, oui, non, mais c'est là où tu vois la différence entre les libraires et les plus libraires.
C'est clair.
Alors, celle-là, la dernière. Très bien conçue, cette BD permet de comprendre toutes les facettes du harcèlement et de donner des clés pour lutter contre. Attention, aborde le sujet sensible du suicide.
Oh.
Bonne chance.
C'est pas
Kéron Ronche à la librairie Tuard. Pardon?
C'est pas It's Lonely du coup?
Non, c'est français.
C'est sorti récemment?
C'est ça que j'ai cherché.
Est-ce que c'est Sophie Lambda?
Oui, je vois.
Tant pis pour l'amour?
Tant pis pour l'amour, mais...
Non.
Non, c'est pas sur le harcèlement, le tant pis sur l'amour trop.
Non, non. C'est a priori le tome 1 sur 4 que vous pouvez retrouver chez Dupuis.
Fille, comment ça s'appelle cette histoire? Fille perdue, fille inconnue, fille unique?
Non.
Non,
c'est l'histoire.
Oui, mais
c'est l'histoire d'une collégienne qui s'appelle Océane de Taous Merakchi.
Tu disais que c'est sorti récemment?
Oui. Attends, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui en fait.
Je pense qu'on l'a pas là.
Non, je pense que.
C'est Les Combats Invisibles de Taous Merakchi, Machi et Karim Alian.
Non, ça me dit rien.
Eh ben, pas facile ce jeu, mais rigolo.
On est mauvais en nouveauté.
Oui, hein,
Les combats invisibles. En fait, c'est juste Taous Merakchi que je connaissais. Mais...
Peut-être qu'en fait, il y avait des bons titres pour qui sont sortis ces trois derniers mois. On est juste passé voilà, complètement à côté.
Bon, bah Charlotte, ça va être à ton tour.
Allez, elle remonte les manches, elle met son pull, prête à la bagarre. Elle sait qu'on a tous apprécié ce fabuleux webtoon qui est Batman Wayne Family
Adventures.
Mon seul argument
contre vos critiques, ce sera votre condescendance. Voilà.
Waouh. À toi, Charlotte.
Le comics, c'est ma lecture doudou. Celle que je prends quand je ne sais pas quoi lire, celle qui me détend, qui me permet de m'échapper un peu du quotidien. Et c'est à la fac, quand j'ai commencé à lire de la BD, que j'ai fait sa rencontre. On était au début des années 2010, je m'ouvrais aux super-héros, et à l'époque, New 52 allait commencer. Un de ces énièmes reboots, mais avec lequel j'ai découvert tous les sidekicks de Batman. L'attachement que j'ai ressenti pour cette Bat-Family a été quasiment immédiat. Vous commencez à me connaître, ce que je préfère souvent dans les histoires, c'est les relations entre les personnages, leurs ressentis et leur passé. Alors, quand on m'a parlé de Wayne Family pour la première fois, j'ai tout de suite eu envie de m'y attaquer. Cependant, la flemme de télécharger une énième application l'a emporté, et il aura fallu attendre la sortie papier pour que je m'y mette, car ce comics est avant tout un webtoon. Entrons enfin dans le vif du sujet. Wayne's Family est, comme son nom l'indique, consacré à tous les personnages que Batman a pris sous son aile. Les Robin, bien sûr, mais aussi Oracle, Spoiler ou Orphan. Divisé en courts chapitres, on suit ces personnages, non pas dans leur combat contre les super-vilains, mais plutôt dans leur moment d'entraînement, de pause et dans leur réunion familiale. Après les chiens, mon deuxième point faible, c'est les relations entre Adelphes, et voir ces personnages s'entraider, se partager leurs doutes et leurs difficultés, essayer de surmonter leurs traumatismes ensemble m'a fait que confirmer, le comics est bel et bien une de mes lectures préférées. Et voir les héros dans leur quotidien m'a vraiment donné l'impression de faire partie d'une grande famille.
C'était Batman Way Family Adventures de CRC Payne et Starbite qu'on peut retrouver chez Urban dans la collection Blast pour 15€, 200 pages, et c'est un tome 1. Mimoun, c'est dans la veine des Batman que tu aimes.
Moi aussi, c'est ma lecture de Zool Comics. Samedi soir, tous les samedis soirs, un petit comics. Les dimanches matin, un petit comics. C'est mon plaisir du week-end. J'adore ça. J'adore Batman. J'adore la Bat Family, enfin les personnages qui traînent autour de Batman. Mais voilà, là, sur le coup, tu t'en parles très bien parce que ça donne envie quand t'en parles. Mais j'ai pas été conquis par ce récit. Alors, je pense que, et là on va aborder le sujet, je pense que l'adaptation y est pour beaucoup. C'est un webtoon qui est adapté du coup en format papier. À la lecture, alors déjà le webtoon c'est des épisodes rapides à lire et enchaîner. Quand on est sur son téléphone, qu'on est dans le bus et qu'on lit ça rapidement, pourquoi pas. Quand on est, dans les transports en commun, pourquoi pas. Là, quand je me pose pour lire un livre, c'est un peu rapide, je trouve. Ensuite, le webtoon, c'est un format où on a des grandes cases qui s'enchaînent, où on descend et on enchaîne. Là, pour l'adapter, on fait des cases, on grandit des dessins, et il y a clairement un défaut de qualité d'image.
La pixelisation.
C'est pixelisé, c'est flou. On voit qu'à certains moments, je sais pas moi.
Il y a pas les visages.
Oui, ça c'est même pas le problème pour moi. Ça peut être un truc d'écriture, de dessin. Mais parfois, on va voir le trait du personnage qui est épais, à d'autres moments qui est plus fin. Ça s'enchaîne très vite et ça crée un problème de cohérence. Dernier truc. La couverture, très jolie couverture.
J'avais dit qu'on parlerait de la couverture.
Oui, ils sont tous en train de faire un petit repas de famille.
Elle est géniale cette couverture.
Si vous voulez voir la couverture, c'est une page dans Batman Dark City tome 3. Donc c'est pas du tout par le même dessinateur.
Oui, c'est un mensonge.
L'image est retournée, elle est allongée. D'ailleurs, ouais. Si vous regardez sur le rabat, en fait, vous voyez en fait que l'image est un peu allongée et que du coup ça décale un peu les personnages qui deviennent un peu plus larges. Voilà, c'est là où je me pose des questions. Honnêtement, la lecture, elle était pas extraordinaire. En même temps, je ne vais pas dire que c'était mauvais. Je pense que je l'aurais lu en webtoon, semaine par semaine. Enfin, je ne sais pas à quel rythme ça sort, mais ça m'aurait plu. J'ai vu que sur l'application webtoon, il y a 2 millions de personnes qui l'ont lu. Ça a l'air d'être un bon succès de webtoon. Voilà. Là, en tout cas, moi, la question qui se pose, c'est sur l'adaptation, plutôt que sur le fond de l'histoire. Parce que je pense qu'en tout cas, le format papier, là, n'est pas adapté pour.
Baptiste ?
Ah oui, 200% d'accord. Malgré la tentative de Charlotte de nous amadouer, en parlant des petits chiens.
Monsieur Massacre, c'est le seul truc bien.
Ça n'aura pas suffi. Et il y a un petit chien dans cette histoire, donc je comprends pourquoi.
Il y a tout un chapitre, mais qui est dans le... Parce qu'en fait, j'ai téléchargé l'application Webtoon après avoir fermé le truc pour lire tout d'un coup. Et il y a un chapitre où Wonder Woman, elle vient au manoir pour qu'il prépare une mission avec Bruce. Et là, elle rencontre tous les animaux de donc la batte vache, parce qu'il y a une batte vache.
Alfred le chat.
Alfred le chat et tout. Et elle tombe juste amoureuse de tous les animaux. Et c'est trop bien. Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais pas du tout. Je comprends bien la tentative de sauver cette série, mais qui pour moi n'a pas lieu d'être. J'ai pas accroché. En papier, c'est sûr, mais je l'aurais pas lu non plus en webtoon. C'est pas ce que j'ai envie de lire sur du Batman. Ok, il y a pas d'aventure, c'est la Bat-Famille. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de lire même en voyant la Bat-Famille. Je trouve que les personnages sont d'un plat et d'un caricatural qui, bah, en fait, comme Jimmy Moon, ça, avec ça, je suis peut-être assez d'accord, ça colle sur un petit truc lu vite fait dans le métro où t'as pas besoin de creuser quoi que ce soit, mais du coup, enfin, bah, déjà, les lire d'affilée, c'est fastidieux, hein, faut quand même, c'est un peu, ça dure 10 minutes, mais c'est long. Et le format ne convient pas, puisque effectivement, moi, la première chose, c'est que la pixelisation m'a fait très, 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 très mal aux yeux. Je savais pas que c'était un webtoon, c'est Moon qui me le dit quand, du coup, voilà. Et la couverture donnait très, très envie. La couverture avec, y a une esthétique assez folle d'ailleurs sur cette couverture. Et quand je l'ai ouvert, du coup, j'étais là, genre, mais pourquoi les personnages, ils sont tout plats? Partout dans les cases, il n'y a pas de fond, c'est pas beau. Et je crois que je ne suis pas sensible à ce genre d'humour. Il y a plusieurs fois où j'ai tourné la page pensant avoir la suite de l'histoire sans me rendre compte qu'en fait c'était fini sur la page précédente et que j'avais pas vu la chute. Donc voilà, c'est pas que une question aussi de format. Je pense que j'ai pas du tout accroché. Si c'est très jeunesse, ok. Si c'est vraiment pour un public, c'est le premier contact avec la Bat-Famille, on va dire 7-10 ans.
Pour faire découvrir Batman.
Ok, il y a un côté mignon. Mais je trouve qu'il y avait dans les séries des années 90 des choses qui étaient bien plus fun et tout aussi correspondant pour finalement parler un peu mieux de ces personnages-là. Quoi.
Ah ouais, le 7 à la maison version Batman, moi j'ai pas envie de lire ça. Hein. Après, bon, l'histoire m'intéressait pas, mais je pense que ça dessert complètement de l'avoir publié en papier en fait. J'aurais passé un moins mauvais moment à le scroller, à faire du doom scrolling. Comme chez certains webtoons, où je sais que c'est pas non plus l'histoire de l'année, mais voilà, ça me prend 5 minutes, même pas 2 minutes de lire un chapitre, et hop, je reviens dans une semaine lire quelque chose. Et je pense que ça se lit vachement mieux comme ça. Que là, ouais. Avoir tout d'un coup, je suis pas...
Pour le coup, effectivement, je trouve que ça fonctionne mieux en webtoon ouais. que sur papier. Après, il y a eu un vrai travail de la maison d'édition de réagencer les cases, mais comme à chaque fois, quoi, ça publie du webtoon en papier, et comme il faut le faire aussi pour certaines BD qui tombent sur qui sortent sur Instagram, où parfois les éditeurs font pas l'effort de réagencer les cases Instagram, et ça se voit et c'est
ça
pas
se voit
lisible
tout de suite, ouais.
Et pour moi il y a le même problème de la question du passage du format numérique au format papier, que ce soit pour le webtoon ou pour les formats internet Instagram qui arrivent en papier. Après moi Batman c'est pas mon super héros préféré. Et en tout cas quand j'ai envie de lire un truc détente, c'est pas vers lui que je vais, parce qu'il se prend toujours trop la tête et il est trop sombre et ça m'agace. Et j'aime beaucoup les personnages qui gravitent autour de lui, par contre, et on a rarement l'occasion de les voir interagir ensemble, à part dans la série One Nightwing en ce moment où on les voit un peu plus, mais tous ensemble comme ça c'est super rare. Et moi du coup j'avais l'impression de pas avoir lu autant de personnages secondaires de la Bat-Family depuis justement les événements de New 52. Et du coup, ça m'avait manqué de les retrouver. Et après, je trouve que les histoires les plus drôles sont dans la suite. Je sais plus si c'est dans le bouquin ou pas qu'il y a un passage entre Bruce et Selina.
Non, il n'y a pas de Selina.
Non, il n'y a pas ça.
Et Bruce et Selina qui discutent sur un toit, qui sont un peu en train de se dragouiller et tout. Et en fait, Bruce a oublié d'éteindre son intercom. Et du coup, toute la famille l'entend. Et du coup, ça fonctionne vraiment sur des petits gags comme ça du quotidien. La traduction, la traduction, je suis pas sûre que ça, c'est peut-être ce qui joue aussi.
Alors,
dans le fait qu'il y ait eu des chutes.
Hier, quand je suis arrivée, je
un suis peu
dit,
malheureuse.
Est-ce que du coup, ça aurait pas été
et
mieux
je sais
VO.
Pas s'ils ont pris du coup la version webtoon. Je me suis pas renseignée sur est-ce qu'ils ont pris la traduction de webtoon ou est-ce qu'ils ont refait
une traduction derrière. Je sais pas.
Ça, je sais pas.
Je pense que pour DC Comics, c'est une tentative d'aller sur webtoon et d'amener un public qui ne lit pas de comics. Parce que la Bat-Family, c'est complexe. Il y a beaucoup de personnages.
Oui. Bah, ils font une petite représentation à chaque fois, mais c'est vrai que c'est pas très évident.
Mais ça, c'était fun. Ça, tu vois, c'est la partie que j'ai trouvé fun. Ouais.
Mais ça permet de les découvrir,
oui,
de t'attacher à eux.
Et ça donne envie d'aller vers d'autres personnages, tu vois, genre d'autres séries de ces personnages-là. Est-ce que t'as envie de revoir Spoiler ? T'as envie de revoir...
Je suis d'accord, mais après, je trouve qu'ils sont, trop simplistes. Donc, comme c'est des histoires très courtes, il n'y a pas de quoi aborder le fond des personnages.
C'est pareil, c'est que dans la suite,
du coup,
ça développe un peu plus. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme c'est plein de nouveaux auteurs et autrices dans les webtoons. Tu as beaucoup de questions de la santé mentale qui sont évoquées. Et ça, tu as beaucoup de chapitres là-dessus dans la suite. Un moment où Jason va entendre un bruit qui va lui faire penser à son agression par le Joker. Et vraiment, ces deux chapitres, en plus, ça se suit, ces deux chapitres où il va revivre tout son trauma et ça, il va vraiment avoir un syndrome post-traumatique. Et où du coup, tout le monde va prendre soin de lui. Et c'est vraiment comment est-ce que dans la Bat Family, ils essayent de prendre soin les uns des autres et tout. Mais c'est un peu plus développé. T'as vu ?
C'est bien, tu nous recommandes que le tome 2.
Oui, c'est un peu plus développé dans la suite.
Mais
parce que c'est aussi un tome de... Enfin, tu vois, genre une série d'introduction. Bah, et c'est vraiment un format, effectivement,
c'est
fait,
pas
pour
un format fait pour
lire...
Oui, si tu lis un chapitre comme ça...
Et ça coûte combien ?
C'est 15 euros le tome 1.
Ah, c'est un peu cher quand même.
Ouais, oui.
Mais parce que moi, je trouve qu'effectivement, c'est un truc qui, par contre, se lit mieux en numérique. Et plus pense, parce que c'est pensé pour ce format, donc ça pose vraiment la question de. Mais je me suis dit que comme on parlait jamais
mais
de webtoon,
c'était
un des rares webtoons qui a marché, c'est
Solo Leveling.
Ah, oui,
mais c'était ma question, est-ce que Solo Leveling fonctionne en papier ?
Ça cartonne.
Oui, énormément.
C'est l'un des rares.
C'est pour moi le seul, avec peut-être un peu leur Olympus, mais,
oui, mais
c'est
déjà
un peu
les
particulier.
Gens qui le lisent sur, le
mais alors que Solo Leveling, tu vois, moi j'aurais préféré qu'on parle de Solo Leveling pour parler webtoon dans le coffret.
J'ai pas trop aimé
parce que pour le coup, non, mais moi je suis d'accord, on est pas obligé de trouver l'histoire est bien, mais je trouve que l'adaptation au papier, pour le coup, c'est un drame webtoon qui fonctionne. Et je suis curieux qu'on
après, est-ce qu'on est obligé de se limiter à la BD sur papier, tu vois ?
Non, mais je suis d'accord.
Peut-être que t'aurais dû nous dire de le lire
sur
webtoon. Sur
webtoon, de donner tes codes de connexion.
C'est grave, pas
compliqué. Les chapitres sont gratos.
C'est gratuit.
En ce moment, la série est en pause sur webtoon.
Mais pareil, Solo Leveling, moi je. Pareil, la version papier, on y gagne. J'ai pas tout lu, j'ai lu les premiers chapitres par curiosité. Et j'ai refeuilleté la version papier. Je pense que ça, c'est pas fait pour. Enfin, faut pas essayer de se. Bah, ils veulent se faire de l'argent avec des trucs qui marchent, je comprends bien.
Oui,
mais restons sur. Ça a été pensé dans un format. C'est bien dans son truc, quoi.
Je me souviens encore de quand on nous avait dit oui, le webtoon, ça va être la nouvelle vague d'arrivée du manga.
Faut pas passer à côté.
Tous les éditeurs font du webtoon.
Faut tout prendre par 15.
De l'argent. Tous les éditeurs perdent de l'argent, là, j'imagine.
Ah ouais,
on croit les NFT, tiens.
Ouais, je pense que c'est un truc qui va, c'est ce qu'on avait dit au début. Enfin, ça
mais
va marcher sur 2-3 titres et ça va péricliter sur tout le reste.
Ah oui,
parce que ce n'est pas conçu pour ça. Et
ou
tant
alors
mieux,
ça demande un vrai travail de réadaptation derrière.
Oui, mais il faut les réécrire. Il faut les redessiner aussi. Bon, qui a envie de faire ça, tu vois.
Mais c'est des histoires qui veulent le coup quand même d'être lues, je pense. Et du coup, moi j'ai l'application Webtoon, mais pour l'instant j'ai lu que Wayne's Family, donc si vous avez des recos. Les gaufrettes, n'hésitez pas.
N'ayez balancé vos
parce
recours.
Que je sais pas par quoi commencer sur Webtoon.
Tu sais que pour la petite histoire, la couverture dans Dark City, c'est un moment où il se fait manipuler, il fait un rêve ou un cauchemar, quoi.
Mais oui, à chaque fois qu'on parle de la Bat Family dans les autres trucs,
c'était un
cauchemar. C'est que en termes négatifs. C'est que pour appuyer sur Batman et pour le faire chanter. Et du coup, tu vois rarement la Bat Family dans des moments heureux. Et donc, moi, ça m'a fait. Du
tu
bien
vois vraiment
petit
Batman
cœur.
Dans des moments heureux.
Oui, voilà. Pour une fois, tu vois, il est là, il fait un concours de meilleur parent d'élève avec une meuf, et puis c'est super, tu vois.
Concours de pompe.
Ça me non, concours de
qui fait
les meilleurs. Ouais.
Ils font des combats pour savoir qui mangera le dernier cookie d'Alfred.
Ouais. Ben oui. Et du coup, ça fait du bien à mon petit cœur, et ça me rend heureuse de savoir que parfois, dans la vie, ils sont quand même heureux, ces gens-là.
Les riches dans leur manoir. Ça fait quand même savoir que de temps en temps, ils sont
cette petite équipe de personnes traumatisées, ils arrivent à trouver du temps ensemble à
pour
vivre des moments heureux entre deux bagarres contre des gens complètement niqués de la tête.
Tu sauves le truc, hein.
Oui, moi, j'ai bien aimé, donc bien évidemment que je vais sauver le truc.
Et qu'est-ce que t'as aimé d'autre, sinon, à part la BD ? Parce qu'on va passer au reco.
Ah yes, excellente transition. Moi j'ai bien aimé, comme on enregistre à Rennes, et ben il y a une boutique à Rennes qui est trop super, que je vous recommande vivement, qui s'appelle Maison Image, qui est au numéro
16
de la rue Victor Hugo, merci Mimoun. Et là-bas, vous allez retrouver Marie qui nous propose une sélection du coup d'images principalement d'illustratrices. Je vois pas beaucoup d'illustrateurs là-bas.
Il y en a quelques-uns,
Ok, d'illustratrices et d'illustrateurs.
Il y a bientôt Julien Bilodeau.
Oh, il y en a ?
Mais oui.
Ah oui. C'est... J'étais en train de dire c'est qui. C'est... Bref. Et elle, donc elle vend des trop belles images, comme le nom de l'indique, de cette petite boutique que vous pouvez encadrer ou non. Et elle fait aussi à manger le midi. Et du coup, vous avez des plats végétariens qui sont à 10 euros ou des sandwichs végétariens qui sont à 5, avec des soupes aussi. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment délicieux. Elle est trop adorable, elle fait du très bon café et elle vend des trucs trop beaux. Donc allez à Maison Image, jetez un œil et achetez plein d'illustrations.
C'est même ouvert pour le goûter. Voilà, on peut manger des petits cookies.
Seulement le samedi, je crois. Sinon, en semaine, ça ferme à 15h.
Ah, ok.
Mais elle est toute seule, c'est pour ça que les horaires sont assez rassemblés.
Oui.
Continuez de parler, Charlotte.
Est-ce que vous cherchez des recos?
C'est vrai. Bon, moi, je vais faire la mienne.
Ah, Mathias, dis-nous. Mathias, quelle est ta recommandation?
Ah, bah, bravo. Je vais faire une. Enfin, c'est un peu une double reco, et c'est... ça revient sur Toriyama. C'est... J'ai vu l'hommage rendu par la chaîne YouTube Sumimasen Turbo à Toriyama. Donc, Sumimasen Turbo, c'est une chaîne YouTube qui est un peu le rendez-vous sur le jeu vidéo, essentiellement, et la pop culture japonaise. Et ça suit l'actu assez régulièrement sur des émissions qui durent à peu près 3 heures, quand même, c'est assez long. C'est une équipe qui est composée de 3 personnes face à la caméra qui sont Nicolas Pouillot-Verlet, qui est l'ancien rédac chef de Game Cult, qui était un site sur le jeu vidéo. Daniel Andreyev, qui est derrière le podcast After Eight et Super Ciné Battle, mais aussi l'autre moitié de BD sans modération de Amandine Schmidt. Et enfin Greg Hello, qui est le directeur des éditions manga, des éditions Kurokawa. Et donc c'est 3 potes d'enfance qui sont fans de jeux vidéo et de culture japonaise, qui en parlent toutes les semaines, tous les mois, etc. Et là ils ont rendu un hommage à Toriyama et on y apprend énormément de choses, que ce soit la flemme de Toriyama de dessiner, de pourquoi les cheveux des Super Saiyans sont blancs dans le papier. Parce qu'il s'est rendu compte que tous ses assistants passaient trop de temps à remplir les cheveux.
Mais
de,
non, je ne savais pas ça.
Qui rendait ses premiers travaux, il les a rendus en retard. Il a failli ne jamais avoir de premier prix pour démarrer sa carrière de mangaka. Oui, il n'a pas eu le premier prix.
Il n'a jamais eu de premier prix. C'est de tous les grands mangakas.
C'est ça.
C'est le seul qui n'a jamais eu de premier prix.
Et sa vie qui était un peu un enfer. Parce que durant son mariage, les journaux TV sont venus pour l'interviewer. Donc t'as une interview filmée, genre au milieu de la salle des fêtes, ils mettent 3 chaises, Toriyama au milieu, 2 journalistes à côté pour lui poser des questions en plein milieu de son mariage. Et c'est pour ça qu'il n'en a plus donné pendant jusqu'à très récemment. Et en fait, il était, c'était un peu une des premières stars à être poursuivi pour savoir ce qu'il allait devenir. Que des petites anecdotes sur s'il avait su que Dragon Quest allait se faire en... qu'il allait avoir 10 épisodes de la série jeux vidéo Dragon Quest, il n'aurait jamais participé tellement ça donnait du travail. Des choses comme ça. C'est hyper intéressant, on apprend plein de choses sur Toriyama.
Il m'a
sur
été
Dragon
proposé
Ball,
sur YouTube ce matin, 2h35.
Ouais, c'est ça.
J'ai vu qu'il m'a été proposé.
Ah ouais,
c'est vraiment
wow.
Très très cool. Mais sinon, Sumimasen Turbo, c'est pour ceux qui s'intéressent à la culture japonaise et surtout aux jeux vidéo, c'est vraiment à suivre.
Bon, bah, n'ayant pas d'idée, je vais parler de musique.
De Gilles Scott Heron ?
Non, pas du tout, pas Gilles Scott Heron, ça aurait été la solution facile, j'y ai pensé un petit peu. Il y a un album qui est sorti, je pense qu'il y a à peu près un an, que j'avais tenté d'écouter il y a un an, qui ne m'avait pas beaucoup parlé à ce moment-là. C'est un album de Silk Sonic, le groupe formé par Bruno Mars et Anderson .Paak. J'aime beaucoup Anderson .Paak, un batteur et musicien et chanteur californien, que je trouve très très bon, très très doué. J'aime moins Bruno Mars, je connais moins son œuvre aussi, il faut dire. J'avais commencé à écouter le disque, je pense que j'avais dû écouter le single qui m'avait pas plu. Mais il y a quelques temps, je me suis écouté le disque en entier. Et j'ai trouvé ça mais vraiment, vraiment très bon. Il y a Bootsy Collins qui participe au disque. Bootsy Collins, légende de la G-Funk, la funk californienne, qui a fait partie de Parliament et de Funkadelic. Les groupes de George Clinton, comme ça je gagne du temps en faisant quelques refs.
C'est bien, mais moi, c'est bien.
Il y a Thundercat qui participe à l'album. En tout cas, c'est un album qui est très groovy, entre le R&B, la soul, la funk, qui est joué par des musiciens et surtout qui a un enregistrement très particulier.
C'est enregistré à la bande, en fait, comme on le faisait dans les années 60-70, pour que ce soit un vinyle directement. Et ça fait ressortir un son beaucoup plus chaleureux. N'hésitez pas à écouter, ça doit durer 45-46 minutes l'écoute. Mais enfin, voilà, je me suis retrouvé à l'écouter une première fois et à l'écouter plusieurs fois d'affilée derrière.
Très bien.
Silk Sonic, l'album éponyme Silk Sonic.
Anderson Paak, le feu.
Baptiste ?
Moi, je vous invite à aller à la BNF, mais pas à la BNF côté... François Mitterrand, celle qui est rue Richelieu, la dépendance qui est rue Richelieu, qui a été réaménagée et qui est à nouveau ouverte aux visites. Entre autres, vous allez. Alors, l'exposition actuelle est pas. Je me suis un peu déçu sur l'exposition sur la Renaissance. Qui finalement n'est pas si incroyable. Enfin, c'est une succession de livres, ce qui est toujours passionnant quand on est libraire et dans le mineur, mais sans appareil vraiment, sans rien amener autour, donc c'est un peu fastidieux, je dirais, même si ça s'est resté en partie intéressant. Par contre, la collection permanente, je ne la connaissais pas du tout, et vous avez énormément de choses qui vont tourner justement autour du livre, de l'écriture, de la manière de transmettre et d'orner le livre au cours du temps jusqu'aux affiches de mai 68. Donc vous voyez des originaux d'affiches qui sont aujourd'hui je dirais peut-être mondialement ou tout au moins france-allemand connus. C'est très beau, france-allemand.
Donc en Allemagne aussi.
En Allemagne aussi. Françaisement connu, bref. Et ça, c'était assez fun de voir un peu des originaux de CRSSS par exemple, ou plein d'autres références comme ça. Et voilà, j'ai passé un super bon moment là-bas et vous avez accès à deux salles qui sont des salles de lecture qui ont été là pour le coup complètement rénovées, qui sont incroyables. Je crois que la plus connue, c'est La Boussole, je crois. Et l'autre, j'ai oublié le nom, mais enfin, quand vous rentrez dedans, de toute façon, ça, c'est, les deux sont accessibles gratuitement, qui sont des salles d'études, donc il y a vraiment des gens qui lisent dedans, mais vous avez l'impression de rentrer dans une espèce de trucs d'un autre monde, quoi. C'est des grandes salles art déco avec des immenses plafonds, des verrières. C'est incroyablement beau et rien de rentrer là-dedans, on a envie de se poser et d'y rester un long moment, même si c'est pour ne rien faire. Il y a des gens qui sont à l'étude, ils ont fait un coin qui est un peu plus accessible où on peut s'installer dans la salle, je crois que c'est la salle ovale, où on peut lire dans des canapés. Et s'il y a la bibliothèque est accessible. Entre autres, ils ont un excellent rayonnage BD, puisque j'ai pris le temps de m'arrêter libraire un jour, libraire toujours, de m'arrêter dans les rayons pour jeter un coup d'œil. Et vous pouvez tout simplement choper une BD, vous-même vous asseoir dans un coin et tout, et c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup.
Ça donne bien envie en tout cas. Merci Charlotte, merci Baptiste, merci Mimoun pour vos chroniques, pour cet épisode.
Merci Mathias.
Merci aux Gaufrettes qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Et nous espérons lire vos retours sur les trois titres chroniqués sur les réseaux sociaux et surtout sur le Discord qu'on vient d'en discuter. Et enfin, un merci spécial à toutes les Sugar Gaufrettes sans qui cet enregistrement ne serait pas possible. On se retrouve dans deux semaines avec la même équipe pour un épisode sous le thème de la lutte. Bonne journée, salut.
Ciao. Ciao.
Salut.
J'ai deux lignes sur Toriyama et puis après c'est juste si vous voulez dire des choses sur Grand Prince
d'Or. On peut tous dire rien.
Oui, ça, on peut tous dire un truc, je pense.
On peut tous dire la même chose, je pense, mais
non.
Pas exactement la même chose, parce que Mimoun a déjà plein d'anecdotes.
On rappelle quand j'ai croisé dans la rue. Et qui m'a dit, mais c'est toi Mimoun.
Et vous êtes
Dragon quoi.
Ça va être dans le blooper, c'est parfait. L'anecdote de Mimoun rencontre Toriyama.